Notre cerveau, justement, de consommateur, serait-il totalement influencé par une discipline née de la rencontre donc, entre les neurosciences et le marketing, le neuromarketing, le principe étant donc de mesurer l'activité de notre cerveau pour mieux nous faire consommer. Le neuromarketing a mauvaise presse en France car il est associé à de la manipulation. Notre pays a d'ailleurs interdit l'utilisation de la neuroimagerie à des fins commerciales. Le magazine Cerveau et Psycho consacre un grand dossier au neuromarketing en partenariat avec la Tête au Carré. 4 invités aujourd'hui à mes côtés pour découvrir donc les différentes facettes de cette discipline très prisée par les publicitaires. Sébastien Boller de Cerveau Psycho. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
En studio également avec nous Arnaud Petre. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neuroscientifique et professeur de psychologie du consommateur et de neuromarketing à l'Université Paris-Dauphine ainsi qu'à l'Université catholique de Lille. À vos côtés, Alain Goudet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste du marketing sonore, professeur de marketing à Neoma Business School et chercheur dans un laboratoire CNRS de Paris-Dauphine. Et puis en duplex avec nous d'Aix-en-Provence, Didier Courbet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur des universités à Aix-Marseille, chercheur à l'Institut de recherche en sciences de l'information et de la communication, dont vous êtes le directeur adjoint. On va donc se retrouver tous dans un instant avec les questions des auditeurs sur franceinter.fr, également sur les réseaux sociaux avec le hashtag L'Attaque, pour comprendre comment la science peut étudier nos comportements d'achat, voire conditionner nos émotions à l'aide du neuromarketing. On terminera bien sûr cette Tête au Carré avec le quiz scientifique et les questions posées à deux nouveaux candidats. Violaine Ballet réalise l'émission, dossier préparé par Antoine Bonvoisin.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Et le mardi, le jour du docteur Dominique Dupagne. Bonjour Dominique.
Bonjour Mathieu.
Vous souhaitez revenir sur la maladie d'Alzheimer aujourd'hui?
Oui Mathieu, puisque le dimanche 21 septembre était dédié à cette terrible maladie, ce qui a donné lieu à de nombreux sujets dans les médias. Je ne suis bien sûr pas un spécialiste de la maladie d'Alzheimer, même si je suis confronté chez mes patients, mais je voudrais aborder des aspects un petit peu atypiques.
Alors atypiques, c'est-à-dire?
Savez-vous Mathieu, ce qu'est l'obsolescence programmée?
Oui, c'est quand on prévoit la durée de vie d'un objet, hein, c'est ça?
Et exactement, en fait c'est une stratégie qui vise à fabriquer des objets dont la durée de vie est volontairement limitée afin de forcer le client à en racheter régulièrement. Eh bien, il en est de même pour notre vieillissement. Il est en grande partie lié à la programmation génétique de notre disparition. Notre obsolescence est inscrite dans nos gènes car le renouvellement rapide des individus d'une espèce est favorable à son adaptation à un milieu changeant. En revanche, fabriquer un individu adulte consomme des ressources qu'il ne faut pas gaspiller trop vite. Et finalement, la durée de vie moyenne constitue un compromis entre ces deux impératifs. Chez les mammifères, d'ailleurs, la longévité est proportionnelle au poids. 4 ans pour la souris, 80 pour l'éléphant ou la baleine.
Mais quel est le rapport avec la maladie d'Alzheimer, s'il vous plaît? On aimerait bien comprendre.
Eh bien, ce rapport réside dans la désynchronisation des progrès de la médecine.
C'est-à-dire
que nous avons fait d'immenses progrès dans certains domaines, mais pas dans d'autres. Nous prévenons ou traitons avec succès les maladies infectieuses ou les maladies cardiovasculaires, qui étaient les causes majeures de mortalité précoce. Nous disposons du rein artificiel pour l'insuffisance rénale, de prothèses pour remplacer ces articulations usées, mais nous sommes restés quasiment impuissants face au vieillissement de la rétine ou du cerveau. Et en traitant avec succès certaines maladies mortelles, la médecine nous permet de vivre plus vieux, même si son but initial était plutôt de sauver des malades jeunes. Et du coup, elle fait émerger des maladies liées à la dégénérescence programmée et quasiment inéluctable de certains organes. En fait, la maladie d'Alzheimer nous concerne tous, mais l'âge auquel elle pourra se manifester par des symptômes varie d'une personne à l'autre. Si votre cerveau finalement est programmé pour s'autodétruire à 120 ans, vous n'aurez probablement jamais les symptômes. Et en fait, ça pose la question générale de la lutte contre le vieillissement. La réponse à cette question n'est pas évidente. Edgar Morin nous a expliqué en détail à quel point la mort est indispensable et indissociable de la vie. Et je ne suis pas certain que l'augmentation de la longévité soit un objectif pertinent pour notre espèce. C'est un vrai problème philosophique et éthique. Et je suis frappé par le nombre de mes patients très âgés qui se plaignent d'être toujours en vie à 90 ans.
Ah bon ?
Ah oui, et à qui je ne suis pas si sûr d'avoir rendu service.
Ah bon, vraiment ? Mais vous voulez dire donc quoi ? Qu'il faut arrêter de soigner les personnes âgées ?
Non, Mathieu, bien sûr que non. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la répartition des budgets dédiés à la santé, il me semble que l'accent devrait plutôt être mis sur l'amélioration de l'état de santé des jeunes et sur une meilleure gestion du handicap des vieux, plus finalement que dans une course à la longévité pour la longévité. À budget égal, il me semble plus important de mieux prendre en charge une sciatique chez un déménageur ou le soutien concret aux aidants familiaux d'un vieillard atteint d'Alzheimer que de dépenser des centaines de millions d'euros dans des médicaments inutiles ou une quête de longévité qui mériterait un débat de fond associant des philosophes, des sociologues, des anthropologues et des généticiens et pas seulement des médecins.
Voilà, donc proposition de débat que vous lancez aujourd'hui. Exactement. Dans la Tête au Carré. Merci beaucoup Dominique Dupagne. Autre débat dans un instant sur le neuromarketing, ce sera le dossier de la Tête au Carré.
affolée, dont les yeux effarés me refoulent sans égard. Je croise des regards, des jambes décroisées aux terrasses des bars, des joggers terrassés par effort. Je roule pour trois fois rien d'émeraude, pour quelques paroles échangées, pour quelques coups de bol. Je suis les rangées de pylônes jusqu'à l'acropole. Je me faufile entre les bagnoles, je prends des coups de boule et je roule. Je ramasse des poules, je pile au carrefour et les feux que je brûle marcheront un jour un râle. Je suis infatigable car je sais qu'à l'arrêt toute chose est dispensable. Oh, je n'ai qu'une idée, continue. Je roule pour trois fois rien d'émeraude, pour quelques paroles lâches, pour quelques coups de bol. Je suis les rangées de pivot jusqu'à l'acropole. Je me faufile entre les bagnoles. Je m'éroute, m'éroute. Je roule pour trois fois rien d'émeraude. Oh, je m'éroute, je m'éroute. Tu me dis t'as pas l'écho. Tu me dis fais une pause. 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 Mais si mes jambes s'ankylosent, qu'est-ce que tu me proposes? Oh, si mes jambes s'ankylosent, qu'est-ce que tu me proposes? Oh, si mes jambes s'ankylosent, qu'est-ce que tu me proposes? Oh, si mes jambes s'ankylosent, qu'est-ce que tu me proposes? Je roule pour trois fois rien. Je suis les rangées de pivots jusqu'à la coupole. Je me faufile entre les bagnoles. Je m'éroute, je m'éroute.
Le rôdeur Pérez sur France Inter.
La tête au carré, l'actualité des sciences. Sur France Inter.
Dossier consacré aujourd'hui au neuromarketing en partenariat avec le magazine Cerveau et Psycho. Neuromarketing, donc, c'est la contraction de neurosciences et de marketing, ou comment comprendre le comportement des consommateurs en étudiant les mécanismes qui sont à l'œuvre dans notre cerveau, dans le but, peut-être, on va voir, de changer nos habitudes et nos choix de consommateurs. Une discipline plutôt sulfureuse pour certains, en France en particulier, dont on parle avec mes invités pour comprendre si nous sommes devenus déjà manipulés par les publicitaires. Sébastien Boller, donc, pour le magazine Cerveau et Psycho. Arnaud Petre, neuroscientifique et professeur de psychologie du consommateur et de neuromarketing. Alain Goudet, professeur de marketing, chercheur et spécialiste du marketing sonore. On va d'ailleurs écouter avec vous des extraits tout à l'heure qui vont bien nous faire comprendre de quoi on parle dans certaines circonstances d'achat. Et Didier Courbet, en duplex d'Aix-en-Provence, professeur et chercheur à l'Institut de recherche en sciences de l'information et de la communication. Vos messages arrivent déjà sur franceinter.fr et sur le hashtag LATAC. Visiblement, c'est un sujet qui intéresse et qui interpelle. Sébastien Boller, c'est bien pour ça que vous avez choisi de le mettre à la une de Cerveau et Psycho.
Oui, oui, il y a des vraies interrogations, je pense, du grand public sur le neuromarketing et sur les neurosciences en général. On va voir qu'en fait, ce qui inquiète parfois le grand public, c'est de se dire que finalement, il y a beaucoup de nos actes, de nos décisions qui nous échappent en partie. Et finalement, le neuromarketing ne fait qu'essayer de projeter un peu de lumière sur ces mécanismes.
Ouais, les études sont nombreuses dans ce domaine aujourd'hui.
Les études sont encore assez rares par rapport à la masse totale d'études de marketing classiques, mais ça a progressé énormément depuis les années environ 2006-2007. Il y a une croissance, comme l'explique très bien d'ailleurs Arnaud Petre, qui est une croissance très très rapide. Donc c'est quelque chose qui est en train de se développer.
Oui, Arnaud Petre, je le disais tout à l'heure, c'est un sujet un peu sulfureux en France en particulier.
Hein. Oui,
particulièrement. On n'est pas très à l'aise avec ça.
Non, on n'est pas très à l'aise. Et puis il faut en parler, c'est la théorie du grand complot. On nous manipule à notre insu.
Oui, c'est vrai qu'on associe souvent le neuromarketing à Alain Goudet avec la manipulation.
Bah, c'est vrai que déjà, marketing tout court est associé à manipulation. Alors en plus, plus, si on rajoute le côté neurosciences, là, effectivement, ça devient la recette absolument infaillible.
Didier Courbet, on va en parler avec vous. Vous êtes assez critique, d'ailleurs, par rapport au neuromarketing.
Alors, il faut voir deux aspects. Il y a l'aspect neuromarketing dans le but de comprendre ce qui se passe. Et puis, il y a l'aspect neuromarketing dans le but d'améliorer les stratégies marketing. Alors, selon les chercheurs, selon les optiques, on travaille soit dans l'un, soit dans l'autre, rarement dans les deux. Mais c'est vrai, quand on essaye de modifier les stratégies marketing pour essayer d'avoir plus d'impact, ça pose des vrais problèmes éthiques. Et je crois, effectivement, il faut qu'on en parle, oui.
Oui, Damien nous dit ceci. Le neuromarketing, ça fait non barbare et ça fait même peur, dit-il dans un message sur Twitter. Est-ce que c'est le but et quoi faire pour protéger mon cerveau? Alors, Arnaud Petre, qu'est-ce que vous lui répondez? Et puis c'est l'occasion de dire ce qu'est vraiment le neuromarketing, hein, au passage.
Oui, alors bon, c'est la contraction, vous l'avez dit, de deux mots, neuro et marketing. Bon, à la définition stricte, c'est l'utilisation des techniques de neuroimagerie cérébrale. C'est essentiellement l'électroencéphalogramme et l'IRM fonctionnel.
C'est ce qu'on utilise dans les hôpitaux.
Voilà, c'est ce qu'on utilise dans les hôpitaux et surtout dans les centres de recherche, parce que c'est surtout là qu'ils font de l'IRM fonctionnel, pour essayer de comprendre le marketing. Mais en fait, je pense que le problème, il vient de la définition du marketing. Et c'est vrai que la partie manipulation, on la voit plus du côté marketing que du côté neuro, finalement. Et finalement, le marketing, ben, c'est une science qui essaye de satisfaire les besoins du consommateur. Donc c'est plutôt... Enfin, moi, j'en ai en tout cas une vision positive. Faisons des bons produits, des bonnes communications pour satisfaire le consommateur.
Oui, ben ça, j'imagine, puisque vous avez fondé la société Brain Impact. Hein, c'est quoi exactement?
Voilà, ben, c'est une société qui essaye d'aider les entreprises ou les États, les gens qui essayent de faire des messages de prévention, à développer des messages efficaces, non pas des messages qui manipulent les gens... Ben, c'est pas tout ou rien la manipulation, bien entendu, donc le problème est complexe, mais des messages simplement efficaces pour les personnes à qui ils sont destinés, que ce soit pour une marque de yogourt ou la prévention contre le tabac.
Donc vous avez fait cette association science-marketing de façon totalement décomplexée.
Totalement décomplexée, c'est en fait le cas dans quasiment tous les pays du monde, finalement, il y a en France où la question d'éthique se pose beaucoup. Bah, la question d'éthique existe vraiment, parce que de là à dire que la publicité ou le marketing ne nous manipule pas, ça, je serais le premier à dire que c'est sans doute pas du tout le cas.
Hein. Sébastien Bollère.
Oui, Arnaud a dit deux choses intéressantes. D'une part, c'est que le neuromarketing peut aussi servir à évaluer les messages de prévention. Et vous m'avez dit tout à l'heure ce qui vous est arrivé, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un gouvernement qui veut tester un message de prévention des accidents de la route, par exemple, qu'on fait passer les gens dans un scanner, et puis vous
exemple concret,
et constater que le clip proposé n'avait aucun effet sur le cerveau, qu'il fallait donc pas le diffuser, et malheureusement vous n'avez pas été écouté. Donc en fait,
ça a été un échec au bout du compte.
Donc c'est un outil qui peut, je pense que toute connaissance sur notre cerveau ne peut qu'améliorer notre libre arbitre, notre capacité de décision. Donc, il faut simplement s'informer de ce qui est fait.
Alain Goudet, quelle définition vous en donnez-vous du neuromarketing ?
Faut pas perdre de vue que c'est un ensemble d'outils et de méthodes, effectivement, pour davantage comprendre la manière dont le consommateur ou l'individu va réagir à des messages de publicité, comme vous l'avez évoqué, mais ou tout simplement la perception d'un lieu. Hein, et on peut aussi voir le côté positif. On parlait là de la sécurité routière. Moi, par exemple, je travaille sur le domaine sonore dans des espaces d'attente hospitaliers, où là, l'enjeu, c'est de réduire le stress des patients, ce qui a un vrai impact positif sur l'ensemble de l'organisation.
Parce que là, justement, c'est l'étude très précise du cerveau pour voir ce qu'on sécrète au moment particulier. On est soumis à des sons. On fera l'expérience d'ailleurs avec vous dans quelques minutes. Didier Courbet, quelle définition, vous, pour terminer, vous donnez du neuromarketing? Est-ce que ce que vous venez d'entendre vous satisfait?
Oui, à peu près la même. Alors, juste pour que les auditeurs puissent bien voir à peu près ce qu'on fait dans les laboratoires de recherche, juste une petite expérience que je vais vous citer très rapidement. Imaginez que vous êtes devant sur Internet. Vous êtes devant un écran sur Internet, vous regardez une vidéo au centre de l'écran. Et en haut de l'écran, vous avez des bannières publicitaires. On contrôle avec un eye tracker, donc une caméra qui enregistre les mouvements de vos yeux, que jamais vous regardez les publicités qui sont en haut de l'écran. Quand on vous interroge, d'ailleurs, une fois que vous avez regardé la vidéo, pour quelle marque ces bannières faisaient de la publicité, en général, vous dites « je ne sais même pas, je ne les ai pas regardées ». On vous retrouve une semaine plus tard, on vous remontre ces marques, on vous demande « est-ce que vous avez envie de les acheter ?» Et on a montré qu'il y avait une petite attirance, effectivement, une petite préférence pour les marques, alors que vous ne les avez même pas vues sur Internet. On l'a contrôlé par une caméra d'enregistrement des mouvements oculaires et vous avez tendance à être plus attiré vers ces marques. Donc ici, c'est ce qu'on montre. Mais ceci dit, maintenant, ça pose des vrais problèmes éthiques liés à la manipulation. Et autrement dit, comment peut-on quelles décisions peut-on prendre en matière de déontologie pour essayer de faire en sorte que dans les laboratoires de recherche, par exemple, il y a une vraie éthique sur on fonctionne avec de l'argent public. Donc, est-ce qu'on a le droit, nous, chercheurs, d'investir de l'argent public donné par les Français, en gros, pour essayer de mettre en place des méthodes qui sont plus efficaces pour les publicitaires? À titre personnel, j'ai tendance à me méfier et à dire plutôt non, parce qu'on est payé par l'argent des Français. Et donc, on a plutôt intérêt à utiliser ces méthodes dans des buts qui sont bien plus valorisés, à savoir, comme disait Arnaud, pour lutter contre le tabagisme, pour lutter contre l'obésité, etc. Maintenant, pour de la publicité commerciale, je suis très, très sceptique, voire très critique. Oui.
D'ailleurs, c'est interdit en France. Enfin, la France protège justement ces risques de dérive. Hein.
Alors, l'utilisation de l'IRM, oui, mais l'utilisation de toutes les autres méthodes, non. Oui.
Alors, avant d'aller sur ce débat-là, pourquoi est-ce que la France a finalement interdit l'utilisation de l'imagerie cérébrale à des fins commerciales, je crois qu'il faut revenir sur ce qu'a dit Didier Courbet, c'est très intéressant, c'est-à-dire que ces publicités que nous percevons, même inconsciemment, laissent des traces sur nos comportements. Et que des laboratoires comme celui de Didier Courbet, aujourd'hui, avec les instruments des neurosciences, permettent de le mesurer. Mais ces publicités exerçaient cet effet depuis des décennies,
avant le neuromarketing. Qu'est-ce qu'on utilisait, par exemple? Donnez-nous un exemple concret.
C'est ce qu'on rencontre tous les jours quand on fait nos courses. Pendant les soldes, par exemple, vous avez des démarques, des réductions, moins 75%. On vous montre un prix de départ, un prix d'arrivée. Ça, par exemple, les psychologues sociaux le savaient depuis des décennies, que ça joue sur ce qu'on appelle un effet d'ancrage. C'est-à-dire que si on vous présente un nombre au départ, ce nombre s'inscrit dans votre esprit et ensuite vous avez tendance à tout comparer à ce nombre de départ. Donc si on vous donne un prix de départ, vous gardez ça en tête et tout ce qu'on vous montre en dessous est perçu comme avantageux.
Les prix qui se terminent par 9, par exemple.
Ah, qui se terminent par 9 également, ce qu'on voit c'est que notre système visuel...
19,99€, c'est pas 20 euros. Et ça marche bien sur le cerveau.
Ça marche bien parce que le cerveau voit le 1. Voilà. Et en plus, à force d'associer le 9 à des démarques, on en vient à investir le 9 d'une charge affective positive. Il suffit de voir des 9 dans un prix pour les, mais ça a été très bien mesuré aussi. Parfois, on préfère même un prix supérieur avec un 9 dedans à un prix inférieur qui n'a pas de 9.
Et là, on gagne à tous les coups. Hein, pour le coup. Arnaud Petre, finalement, on fait parler l'inconscient aussi avec la neuroimagerie.
Oui, voilà, on le fait parler, mais ce n'est pas pour ça qu'on le manipule. Donc, ce qui manipule les gens, bien entendu, c'est les prix, c'est les publicités. Ça, depuis l'aube du monde. Hein. Vous alliez à Rome il y a 2000 ans ou à Herculanum, vous allez voir, vous aviez les publicités pour le lupanar adrien, la boulangerie Maxius. Donc, bon, c'est vieux comme le monde, évidemment. Donc, bien entendu, ça, c'est un point intéressant, c'est de se dire que la manipulation, elle existe depuis tout temps. Et le marketing, le neuromarketing, ne sont pas des outils de manipulation, ce sont des outils qu'il étudie. C'est pas tout à fait la même chose. Mais non, je voudrais quand même revenir sur la définition et le problème en se disant, bon, écoute, tant que c'est l'État qui utilise ça pour faire de la prévention pour la sécurité routière, très bien. Enfin, moi, j'ai aucune objection personnelle à ce que les voitures françaises soient confortables, qu'elles se vendent dans le segment du luxe, par exemple, hein, ce qui est un vrai problème pour l'instant, que ça favorise la croissance de l'économie française. Donc, je veux dire, je pense qu'on peut aussi définir... Moi, j'ai une vision positive du marketing, où on définit ce marketing comme essayer de satisfaire les besoins, non pas essayer de manipuler les gens. Moi, j'ai pas intérêt à vous manipuler, parce que si je vous manipule, qu'est-ce qui va se passer? Quelques semaines après, vous allez dire, mais je suis très déçu de ce produit, je vais plus le racheter.
C'est quand même toujours en libre. Ça peut être l'effet inverse, c'est-à-dire que ça peut revenir au fond contre la marque.
Ça peut avoir un effet boomerang.
Mais c'est pas toujours le cas quand même. C'est majoritairement, on manipule aussi très bien les consommateurs pour des effets évidemment bénéfiques pour une marque.
Bien sûr, mais alors c'est un effet à court terme. En général, les marques et les entreprises essayent de travailler quand même une relation à long terme avec le client. Ouais. Et donc, ils ont intérêt, ils ont une vision positive de développer des bons produits, des bonnes publicités pour en parler et non pas forcément de se dire on va jouer en coup, les manipuler, les faire acheter et puis créer la déception.
Il y a beaucoup de messages des auditeurs. Jacques nous dit ceci sur Twitter. On utilise peu pour l'instant le neuromarketing. Est-ce lié au risque que l'on connaît d'abord trop mal ou trop peu cette discipline pour éviter une sorte de lobotomisation? Qui veut répondre? Alain Goudet, par exemple?
On utilise peu
le neuromarketing pour l'instant?
Alors, sur la partie IRM, oui, de toute façon, c'est effectivement interdit en France. Après, il y a pas mal d'autres méthodes qui existent. On peut s'intéresser à la conductivité de la peau, on peut s'intéresser au rythme cardiaque, au rythme respiratoire, à pas mal de mesures dites implicites qu'on va aller donc mesurer à un niveau physiologique. Maintenant, je crois qu'on est quand même loin de l'aspect lobotomisation ou manipulation. Il ne faut pas perdre de vue quand même qu'aujourd'hui, on est dans une société de l'information et je rejoins complètement Arnaud sur le sujet, c'est qu'aujourd'hui une entreprise qui cherche à manipuler et qui cherche finalement à mentir sur son offre, sur ses services ou ses produits, ça risque d'être décelé un jour ou l'autre. Et le jour où c'est décelé, effectivement, l'effet boomerang sera beaucoup plus fort que l'effet initial positif qui était recherché. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle la résistance du consommateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, un des aspects positifs du déploiement des neurosciences, c'est qu'on peut aussi, notamment par exemple à travers le dossier de cerveau et psycho, communiquer sur comment ça fonctionne. Et du coup, l'individu est conscient de comment ça fonctionne et peut déployer des stratégies pour justement décoder les mécanismes publicitaires ou marketing des entreprises.
Didier Courbet, vous croyez vraiment au libre arbitre du consommateur, voire justement à sa réactivité, à son opposition, à ce qu'on veut bien lui faire avaler ?
Alors, il y a effectivement un point important là, dans ce qui vient d'être dit, c'est que à partir du moment où des entreprises utilisent des techniques de neuromarketing, c'est vrai que ça augmente la probabilité d'efficacité des campagnes, notamment par exemple en publicité. Les campagnes sont un peu plus efficaces, même si après c'est discutable concernant l'utilisation ou pas d'IRM, bon, peu importe. Maintenant, une chose qu'il faut bien préciser également, c'est que quand le citoyen français il est conscient des méthodes qui sont utilisées par les publicitaires, ça permet, parce qu'il est plus informé, ça permet de lutter contre la manipulation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on prend conscience des techniques qui sont utilisées par les publicitaires, ça permet d'améliorer, on va dire, d'améliorer la réponse et donc de baisser les effets non conscients de la publicité, par exemple. Donc, on a intérêt, nous, chercheurs, à donner le maximum de résultats de nos recherches au grand public, d'où l'émission d'aujourd'hui, de façon à ce que ces consommateurs-là aient connaissance et conscience des techniques utilisées par les publicitaires et prise de conscience égale diminution des effets des publicités, c'est clair.
Arnaud Petre, pardon, la toute première expérience, justement, d'IRM fonctionnelle pour le marketing, c'est 2004, c'est ça ?
Alors, oui, c'est une des premières qui a été taguée, sous-titrée, disons, neuromarketing. C'est une expérience qui comparait finalement ce que provoque du Coca, du Pepsi dans votre cerveau, ouais, et qui révélait quelque chose qu'en fait les marketeurs savent depuis très longtemps, que c'est surtout la marque qui fait que ça goûte bon.
Donc, c'est plus que la saveur
Plus que la saveur. C'est-à-dire que quand vous goûtez du Coca et que vous savez que c'est du Coca, vous faites appel à une zone de votre cerveau qui s'appelle l'hippocampe. Et cette zone, c'est le hub, on va dire, c'est le centre de votre mémoire épisodique. Et donc, eh bien, quand vous goûtez du Coca et que vous savez que c'est du Coca, vous êtes en fait en train de vous souvenir du goût du Coca et de tout ce que vous avez associé à la marque. C'est l'effet de ce qu'on appelle en marketing le branding, donc le travail de la marque sur la perception du goût. Et par après, on a démontré Ilke Plasman, par exemple, avec le vin, du vin français d'ailleurs, que en fait, le prix d'une bouteille influençait sur la perception elle-même du goût.
Ah bon ? Oui. Ouais. C'est-à-dire ? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Plus c'est cher et plus on apprécie le vin ?
Exactement.
Au contraire,
là, on peut imaginer qu'elle faisait tester des vins qui étaient en fait des grands pinots, dont un pinot que les gens connaîtront, c'est le Jerez Chambertin, donc un très très grand vin qui est assez cher. Et puis on le comparait avec un autre vin qui était beaucoup moins cher. Donc il y en avait un, on va dire, à 100 euros, un autre à 10 euros. Et le vin, en fait, c'était deux fois les mêmes vins, mais simplement les gens ne le savaient pas. Et évidemment, non seulement ils déclaraient que l'un était meilleur que l'autre, mais surtout au niveau de leur cortex entorhinal, donc vraiment le sens du goût primitif, il y avait une influence, c'est-à-dire que vous goûtez le vin meilleur s'il est plus cher. C'est pas simplement du snobisme, le vin meilleur est plus cher. Et donc là, dire ça aux gens, c'est intéressant, et on en parlait, c'est ce qu'on appelle la neuroéducation. Donc c'est dire, attention, votre cerveau vous trompe vous-même. L'objet de manipulation, c'est pas le marketing, c'est pas la publicité, c'est notre propre cerveau qui le manipule.
Sébastien, oui. Il y a une autre technique qui s'appelle l'eye tracking. C'est quoi exactement ça ? Alors, ça sert à quoi ?
Là, ça consiste,
on regarde dans nos yeux.
Ce sont des dispositifs qui en fait mesurent les déplacements de vos yeux. Par exemple, si vous êtes devant un rayonnage, voire un rayonnage virtuel, en réalité virtuelle, on peut le faire aussi. Ce dispositif permet de savoir exactement où vous regardez et à quel moment vous regardez. Alors, ce qui est intéressant, c'est de combiner ça aussi avec les techniques d'imagerie cérébrale, parce que vous pouvez voir quand l'œil se fixe sur le petit pot de café soluble en bas à gauche ou sur le paquet de couches en droit à droite, qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau à
ce moment-là. Mais alors ça veut dire qu'il y a des caméras qui sont disposées dans les rayons, concrètement ? Comment on regarde dans nos yeux ?
Ce sont des rayons expérimentaux, bien évidemment, puis c'est des systèmes de lunettes avec caméras intégrées.
On pourrait imaginer des dispositifs qui soient installés à temps complet dans les supermarchés ou pas ?
Alors, c'est un petit peu l'idée des lunettes de chez Google, hein. C'est-à-dire que c'est des lunettes qui augmentent votre réalité virtuelle, qui poursuivent votre regard et qui vous disent, mais quand vous regardez là, tiens, là-bas, c'est la Tour Eiffel. Ça peut être sympa d'un côté, ça peut être aussi intrusif, bien entendu.
Allez, dans un instant, on fera une petite expérience avec Alain Goudet pour voir quels sont les sons qui peuvent nous faire acheter, les sons qui font vendre et qui sont largement utilisé dans les magasins, vous allez les reconnaître. Ce sera la petite expérience de la tête au carré juste après Radiohead, Knives Out.
Yeah.
Et c'est Radiohead sur France Inter dans cette Tête au Carré consacrée donc au neuromarketing avec mes invités Sébastien Boller pour le journal Cerveau et Psycho, donc qui consacre sa une au neuromarketing. Le cerveau peut-il résister à la publicité? C'est dans les kiosques en ce moment. Le neuroscientifique Arnaud Petre, Alain Goudet, donc spécialiste du marketing sonore, et Didier Courbet avec nous en duplex d'Aix-en-Provence, professeur des universités et chercheur. Beaucoup de messages sur franceinter.fr et sur l'attaque FI. Bruce nous dit ceci: en général, les publicités sont composées de l'image, des mots et du son. Selon vous, parmi ces trois éléments, lequel influence le plus le comportement des consommateurs et pourquoi? C'est peut-être pour vous ça, Alain Goudet.
Alors, l'ensemble des éléments en fait doivent être complètement cohérents, hein, c'est-à-dire image, mot et son. À partir du moment où il y a un élément qui va être dissonant, hein, c'est-à-dire qui va s'écarter en fait de ce que souhaite véhiculer comme message l'entreprise, l'ensemble du message risque d'être rejeté. Donc c'est vrai que l'ensemble de ces dimensions-là sont travaillées et doivent être travaillées de manière cohérente. Maintenant, si on s'intéresse à l'efficacité du son,
c'est votre cas.
C'est mon cas. Je m'amuse hein, en conférence à faire une petite expérimentation où je manipule donc la bande sonore d'une même publicité. Donc tout reste identique, le visuel, les mots utilisés. Simplement, la bande sonore change et fonction du type de musique que je mets en place, clairement, l'évaluation de la publicité et du produit va également évoluer. Dans certains cas, donc c'est une publicité pour une voiture. Dans certains cas, avec une musique plutôt tempo lent, rassurant, on va clairement m'évoquer la dimension sécuritaire du véhicule. Si on est sur une musique beaucoup plus rapide et dynamique, là, on va m'évoquer le côté sportif et justement dynamique du véhicule.
Aujourd'hui, les neurosciences justement permettent de bien comprendre l'impact des sons sur notre cerveau et sur donc nos comportements ensuite qui en découlent.
Permet de découvrir, hein, parce que c'est pareil, moi j'ai coutume de dire que le domaine des neurosciences aujourd'hui est quand même un domaine en cours d'exploration, hein, c'est-à-dire qu'on connaît un certain nombre de choses sur notre cerveau, mais encore énormément de choses à découvrir. Si on regarde par exemple sur la partie musique, l'influence de la musique sur le cerveau, les recherches utilisant les outils neuroscientifiques datent de 2012 hein, pour montrer des liens clairs, nets et précis entre écoute de la musique et par exemple le frisson musical.
Didier Courbet.
Oui, alors pour répondre précisément à la question de l'auditeur, on a fait une expérimentation récente là, dans notre laboratoire à l'Université d'Aix-Marseille. On a fait passer notamment des pop-up sur Internet et des bannières sur Internet où il y avait à l'intérieur des images et des mots, justement, et on les a fait passer très vite dans le champ visuel des consommateurs. Et puis ensuite, on a retrouvé ces mêmes consommateurs 3 mois plus tard. Et on a essayé de voir quel était l'impact des images et quel était l'impact des mots. Et on s'est rendu compte que 3 mois plus tard, alors que le consommateur avait complètement oublié d'avoir vu ses publicités, il ne se souvenait absolument pas de la marque, les résultats ont montré que les images ont un impact davantage sur l'affectif, c'est-à-dire que les personnes ont davantage aimé les publicités quand il y avait essentiellement des images. Mmh. Et quand il y avait essentiellement des mots, l'impact était davantage sur les aspects sémantiques, c'est-à-dire, en gros, le sens de la publicité. On se souvenait davantage de l'association entre la marque et le sens de la publicité. Mais en gros, si on veut toucher l'affectif, c'est plutôt l'image. Si on veut toucher la mémorisation de l'idée, c'est plutôt le mot.
Mmh. Alain Petre, là-dessus?
Oui, et puis on a un cerveau en fait visuel, hein, donc c'est le cortex occipital qui est très très développé. Hein, donc on est des machines à traiter le signal visuel. C'est vraiment, ça prend beaucoup de place dans notre cerveau. Ouais. Donc évidemment les images ont un potentiel de déclencher des émotions extrêmement fort.
Et il y a cette mémoire, ces traces laissées sur notre cerveau, c'est absolument phénoménal.
Voilà, les images, la musique, ça peut provoquer des émotions. Et mon très cher collègue parlait d'un article qui vient de sortir qui montre même que le frisson qu'on a quand on entend un vieux tube, vous savez, parfois un peu une bête chanson, hein, mais de la chanson de nos 15 ans, vous savez, Casser la voix ou un truc comme ça, c'est pas forcément un chef-d'œuvre, mais on l'a vécu cette chanson, et bien on entend ça et on peut avoir un frisson même si on n'a plus entendu cette chanson pendant un certain temps, et on montre que c'est le cerveau qui commande la libération de dopamine et donc qui vous fait vraiment frissonner, c'est-à-dire que c'est vraiment une émotion très très intense.
Sébastien,
disons que l'image, on est habitué à connaître son pouvoir, on vit dans une société de l'image, mais je crois que le son, on a un petit peu moins conscience de son pouvoir. Alors, quand même, il y a des expériences qui ont été réalisées dans des magasins où on faisait régner un silence absolu. C'est aperçu que les gens n'aimaient pas du tout, ils ressortaient, ils n'achetaient rien du tout. Et la musique peut avoir un côté comme ça sécurisant, tellement on est habitué à avoir l'oreille bercée de musique. Et puis après, comme disait Alain Goudet, il y a des musiques qui ont un pouvoir aussi, justement, de faire diminuer la concentration de certaines hormones du stress ou libérer justement de la dopamine également. Donc je suis très partagé là-dessus. Je dirais qu'on sait tous qu'une Une publicité sonore sans images, ça peut marcher. Mais une publicité avec des images sans son, à mon avis, je ne sais pas ce que ça donnerait.
Alors Alain Goudet, on va faire une petite expérience. On va écouter différents sons ensemble. Et puis vous allez nous les décrire et nous dire à quoi ils correspondent, justement sur l'impact aussi de notre cerveau. Premier son, c'est, je crois, une alarme. Voilà. Voir un marteau-piqueur, c'est comme on veut. Donc c'est plutôt désagréable, on voit bien qu'il y a quelque chose là qui nous agresse.
Clairement, effectivement, si on fait une mesure type affective sur ce type de sonorité, c'est assez désagréable. Et là, on va être typiquement sur le réveil, réveil matin avec libération de cortisol assez rapidement. Vous testez ça en conférence, les gens sont un peu endormis, vous diffusez ça, tout le monde est réveillé.
Ouais. Autre son, l'exact opposé.
Alors effectivement, là on est sur l'exact opposé avec le chant des oiseaux. Alors là, ça renvoie à des mécanismes ancrés assez profondément en nous, puisque quand on entend en fait, à l'époque assez ancienne, quand on entendait les oiseaux chanter, ça signifiait tout simplement l'absence de danger. Donc vous avez par exemple des sociétés de parking qui ont utilisé cette technique-là pour essayer de rassurer sur la perception du lieu en diffusant donc des chants d'oiseaux. Ce qui apporte quand même une question, parce que je vous parlais de congruence et d'éviter justement ces phénomènes de dissonance. Diffuser des chants d'oiseaux dans un parking de stationnement souterrain en plein centre-ville, ça fait un peu bizarre. Moi, je l'ai testé. Clairement, c'est pas le plus efficace.
C'est même contre-productif.
Et ça peut être contre-productif, tout à fait.
Autre son. Voilà, donc là on a un petit florilège de sons que nous connaissons bien d'ailleurs, au travers de différentes publicités.
Alors effectivement, là en fait, j'ai rassemblé 11 identités sonores donc de marques qui tiennent sur un espace temporel de 9 secondes. Même si on n'est pas capable de relister l'intégralité des marques et des identités sonores, généralement en moyenne, on est capable quand même d'en citer 6 ou 7 sur les 11. Donc c'est déjà plutôt un bon score.
Donc là aussi, une empreinte très réelle sur notre cerveau et nos habitudes.
Alors effectivement, le son, et notamment quand il est utilisé dans une démarche d'identité sonore et donc de communication publicitaire, le son va avoir cette capacité à imprégner notre cerveau. Il ne faut pas perdre de vue que notre cerveau est aussi à cette habitude de traiter du sonore en continu. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à entendre des choses, à traiter, à analyser. Et simplement, on va porter notre attention sur un certain nombre de sons qui vont être évocateurs, ce qui est évidemment le cas d'une identité sonore utilisée par une marque.
Allez, dernier florilège sonore. Arnaud Petre nous parlait de ses beaux souvenirs avec Patrick Bruel. Eh bien, nous avons mieux à vous proposer. Alors là, on s'imagine avec notre petit caddie ou dans les rayons d'un magasin de vêtements, par exemple.
Alors effectivement, magasin de vêtements ou grande surface, là, très clairement, on est sur un magasin extrêmement grand public dont la démarche n'est pas tellement d'illustrer forcément un positionnement très moderne ou très stylé, mais plutôt d'avoir une ambiance qui soit évaluée comme positive, comme agréable. Cette évaluation va évidemment rejaillir sur la perception du magasin en tant que tel ou de la marque enseigne. Il faut savoir qu'en matière de musique, notamment, la familiarité crée la préférence, c'est-à-dire que plus on va avoir entendu et écouté un titre, plus on va avoir tendance à l'apprécier. C'est aussi comme ça, malheureusement, que les labels nous vendent parfois des musiques assez peu intéressantes.
Voilà, et donc c'est aussi une façon de nous retrouver dans des atmosphères tout à fait particulières, dont on voit bien qu'elles peuvent nous conditionner aussi dans nos actes d'achat. Didier Courbet, je crois que vous souhaitiez réagir tout à l'heure à ce que vous entendiez dans la bouche d'Alain Goudet.
Oui, concernant l'impact du son, on a fait une expérimentation récente avec Julien Tartaglia, qui est un collègue chercheur, où il a travaillé sur les enfants et les adolescents, notamment au niveau du son. Et le protocole expérimental est le suivant, c'est qu'on montre des publicités, enfin plus exactement, on montre un site internet à des enfants et des adolescents entre 12 et 17, 18 ans, et on a des publicités sur ce site qui sont avec simplement une petite voix qui prononce le nom de la marque, ou alors ces mêmes publicités qui sont sans cette petite voix, autrement dit sans aucun son. Et on retrouve ces adolescents une semaine après. Alors évidemment, ils ont complètement oublié ces publicités. Ils se souviennent absolument pas d'avoir été exposés à ces marques. Et lorsqu'on leur demande, mais on leur remontre de nouveau ces marques, évidemment, ils s'en souviennent plus. Et on leur demande simplement, est-ce que vous aimez ou pas ces marques? Les adolescents et les enfants ont tendance à bien plus apprécier les marques auxquelles ils ont été exposés sans s'en souvenir, sans conscience. De même, ils ont tendance à avoir davantage envie d'acheter ces marques, alors que quand on leur demande pour quelles raisons est-ce que ces enfants, adolescents ont envie, ils n'ont aucune idée des raisons pour lesquelles ils ont envie davantage d'acheter et ils sont attirés par ces marques. Donc ici, ça montre bien également le pouvoir sur la mémoire inconsciente de ces histoires de sons et plus globalement des publicités qui sont extrêmement rapides et qu'on oublie aussitôt.
Arnaud Petre, vous qui êtes totalement décomplexé par rapport à l'utilisation des neurosciences pour le marketing, sur quoi vous travaillez par exemple en ce moment concrètement? Donnez-nous un exemple.
Oh, mais pour l'instant, on travaille par exemple au développement de parfums qui sentent bon pour les gens à qui ils sont destinés. C'est pas mal.
Et là, l'usage des neurosciences est intéressant?
Oui, parce que c'est très difficile de parler d'un parfum quand on n'est pas un parfumeur soi-même. Donc on a trois mots, hein. Ça sent bon, ça sent mauvais ou j'ai pas d'avis en gros. Et donc développer un parfum sur ces trois mots-là, c'est compliqué.
Et il y a beaucoup d'échecs d'ailleurs dans les ventes de parfums.
Oui, c'est énorme. Il y a un taux d'échec qui est supérieur à 80%. Donc c'est-à-dire que c'est un coût énorme pour les sociétés.
Mais ça, c'était avant l'usage des neurosciences. Alors, peut-être que l'IRM va tout changer, non?
Alors ça va pas tout changer, mais on espère bien faire chuter un peu ce taux d'échec, bien entendu.
Oui, parce que c'est très irrationnel. Hein, les odeurs. Vous parliez d'études qui montraient que finalement certains très grands parfums, très grandes marques, quand elles étaient senties à l'aveugle, les gens trouvaient que ça sentait mauvais.
Oui, mais c'est le même effet que sur Coca et Pepsi. Hein, c'est-à-dire, vous prenez des gens qui consomment une grande marque de parfum, on va dire Chanel, tiens, par exemple.
Arrêtez de citer des marques, s'il vous plaît. Là, on voit le publicitaire extraverti.
Une marque X de parfum, et de parfum prestigieux. Et puis, vous faites sentir ce parfum à l'aveugle parmi d'autres parfums de la même classe olfactive, donc des parfums semblables du même prix environ, et puis vous vous rendez compte que ces personnes peuvent vous déclarer tout à fait qu'elles n'aiment pas ce parfum alors qu'elles le mettent tous les jours. C'est assez particulier.
Donc en faisant sentir des parfums, mais en captant l'activité cérébrale, vous pensez qu'on peut avoir plus accès à l'affect du consommateur que lui-même par ses mots et par sa conscience.
Oui, mais c'est-à-dire que on n'a pas un accès à ce qui se passe dans notre cerveau. Si je vous demande comment vous faites battre votre cœur, vous allez avoir de grandes difficultés à me répondre. Hein. Non, c'est bien votre cerveau qui décide de faire battre votre cœur.
C'est peut-être ça, Mathieu, qui dérange finalement l'idée que ces appareils peuvent voir en nous mieux que nous et que finalement notre libre arbitre est quelque part un petit peu fragilisé. Et peut-être qu'en France, on tient beaucoup à l'intégrité de notre libre arbitre.
D'où l'interdiction peut-être de l'usage de l'IRM des fins marketing.
En tout cas, si l'opinion adhère à cette interdiction, implicitement, c'est peut-être parce qu'on est dans cette culture où on doit se dire que notre conscience maîtrise tout.
Oui. Arnaud Petre, vous en pensez quoi de cette interdiction française?
Voilà, c'est la culture du pied de Descartes. Hein. Il y a l'esprit et puis il y a la machine en dessous. Alors, cette machine, elle fait des choses affreuses et puis, heureusement, il y a l'esprit. Alors, on essaie de séparer les deux. Mais en fait, les deux communiquent en permanence. C'est-à-dire que sur l'interdiction, alors moi, j'ai un avis assez particulier, probablement. Mais je me dis, c'est un petit peu comme interdire le thermomètre pour lutter contre la fièvre, si vous voulez. Hein.
Donc là, comment y aller ?
On interdit de faire des images, mais enfin, c'est pas les images qui fait que vous fonctionnez comme ça. C'est votre cerveau, c'est la publicité, c'est les sons. Et c'était là avant le neuromarketing, c'était là il y a 100 ans, c'était là il y a 1000 ans, et ça continuera, même si on interdit le neuromarketing. Donc je pense que c'est deux problèmes séparés. Et puis là, on parle beaucoup de publicité, mais enfin, le marketing, c'est pas la publicité. Le marketing, c'est avant tout développer des produits qui satisfont les gens à un prix raisonnable dans lequel tout le monde se retrouve, l'entreprise, bien entendu, et le consommateur.
Didier Courbet, pour terminer, il nous reste 2 minutes à peine sur les questions éthiques, évidemment, liées au neuromarketing, et c'est absolument essentiel. Hein.
Oui, le problème de la France concernant les IRM, c'est qu'on manque cruellement d'IRM pour les personnes malades. Alors, ça serait quand même une aberration que de donner priorité aux publicitaires ou aux gens du neuromarketing, sachant qu'on en manque et qu'il y a beaucoup de personnes avec des durées d'attente pour passer des IRM qui sont à n'en plus finir. Donc, ça me semble tout à fait raisonnable, vu le peu d'IRM qu'on a en France, qu'on les donne ou on les laisse aux médecins. Donc ça, c'est un point sur lequel je pense qu'il faut être relativement ferme. Le jour où en France, on aura énormément d'IRM et que, éventuellement, la recherche privée pourra financer des IRM dans les laboratoires, pour des chercheurs, dans ces cas-là, ok, on peut les utiliser. Mais pour l'instant, laissons le peu d'IRM qu'il y a aux médecins et aux malades en France.
Didier Courbet, pour terminer sur les questions éthiques.
Alors, concernant les questions éthiques, je crois qu'effectivement, la vraie question qu'on doit poser, c'est dans quel but utilise-t-on le neuromarketing? Si c'est simplement pour faire des diagnostics sur est-ce que les publicités, est-ce que les stratégies marketing sont efficaces ou pas? Pourquoi pas? J'ai envie de dire oui, effectivement.
C'est de la science, c'est de la connaissance.
c'est de la connaissance, ça permet effectivement de mieux comprendre comment le cerveau fonctionne. Maintenant, quand il s'agit d'essayer d'améliorer les stratégies pour des marques ou pour des entreprises privées, là, il faut que chacun soit effectivement très clair sur quel est son objectif idéologique derrière. Est-ce qu'on adhère à cette société de consommation où parfois on vend des produits dont on a parfois besoin, parfois pas besoin, ou est-ce que finalement on se dit on a un petit peu trop de cette idéologie de consommation et pourquoi pas mettre un peu moins de le spot sur il faut tout le temps consommer plus. Donc ça, c'est chacun, chaque chercheur, chaque personne, chaque auditeur va voir par rapport à sa propre idéologie.
Oui. On termine avec deux messages. Simon nous dit ceci. Est-ce que l'intervention de Nicolas Sarkozy sur France 2 n'est pas une forme de neuromarketing par la gestuelle associée à la parole? Je vous laisserai méditer là-dessus. Et dernier courriel, Bernie nous dit à quand le neuromarketing appliqué à l'élection présidentielle, par exemple?
Ça a déjà été fait aux États-Unis. Là, ils consomment beaucoup de neuromarketing et ils testent l'efficacité de leur campagne pour voir si elle est compatible avec les...
Cela dit, l'intervention de Nicolas Sarkozy l'autre soir a été un premier exemple de la pénétration des neurosciences dans le discours politique. Vous vous souvenez de la phrase « Est-ce que vous me prêtez deux neurones d'intelligence ?»
C'est vrai, il l'a beaucoup utilisé, absolument. Ben, on pourrait lui conseiller de lire « Cerveau et psycho » par exemple, c'est Sébastien Boller, qui a un très bon dossier donc, sur le neuromarketing. Le cerveau peut-il résister à la publicité? Merci beaucoup à tous les quatre, merci aux équipes de France Bleu Provence qui ont permis ce duplex. Et donc ce dossier à retrouver également en podcast sur le site de la Tête au Carré, franceinter.fr pour le réécouter. Merci à vous tous.
Merci.
A child breaks the ice and peers into the hidden depths and tries to decipher the whole of this unholiness. I have no doubt he will figure it out someday. Kaloo, Kaloo, Kaloo. Then the sparrows will sing on the boulevards again. And the corridors of power will be walked by thoughtful men. Near Saturn's embrace, that mythical beast will surely fade away. To master the helm, they cannot be seduced by this candy floss techno hell. They put over the hell, and a fresh breeze fills the sails. Kaloo. Breaks the ice and peers into the hidden depths to try to untangle the whole of this unholy mess. Well, I have no doubt they will figure it out one day. Kaloo.
Marianne Faithfull, nouvel extrait de son prochain album qui va sortir le 29 septembre prochain, Sparrows Will Sing. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, c'est dans quelques minutes. Ah mais on est beaucoup trop tôt là en fait.
Bah oui, vous m'étonniez, mais parce que je suis là, parce que je suis votre jeu.
Ça m'a perturbé, vous êtes entré dans ce studio. Eh bien on se verra dans 10 minutes, à tout à l'heure. Bonjour Florence Porcel.
Bonjour Mathieu Vidard.
L'heure est venue d'accueillir deux nouveaux candidats afin de tester leurs connaissances scientifiques.
Mais oui, bonjour Magali et Olivier.
Bonjour.
À tous les deux.
Bonjour.
Magali, vous habitez à Saint-Chély-d'Apché. Est-ce que je le prononce bien ?
C'est tout à fait ça.
C'est en Lozère.
Oui.
Et vous êtes vétérinaire, c'est ça ?
Oui.
Bon, vous occupez de tout type d'animaux dans votre cabinet ?
Oui, les grands, les petits, et moi, bah, principalement les petits animaux, les chiens, les chats.
Très bien. Olivier, vous habitez à Mince.
Oui, j'habite à Mince, et c'est dans le Trièves, une petite région tout à fait charmante au sud de Grenoble.
Voilà, et vous êtes kiné ?
Je suis kiné, libéral.
Absolument. Bon. En tout cas, ce sont les éditions Flammarion qui sont partenaires de notre quiz aujourd'hui, Florence.
Oui, et nous jouons pour vous offrir le beau livre Science année après année. Et c'est évidemment celui ou celle d'entre vous qui aura accumulé le plus de points qui remportera ce cadeau.
Voilà, Magali, Olivier, si vous êtes prêts, on va démarrer avec la première question d'actualité. Et pour illustrer cette question, je vous propose d'écouter l'astrophysicien Jean-Pierre Bibring.
Pour la première fois avec Rosetta, on va se poser sur le noyau d'une comète pour analyser la composition et les propriétés de ce noyau cométaire. Et en particulier, ce qu'on voudrait, c'est identifier et caractériser les molécules organiques, parce qu'on pense qu'elles ont pu initier l'émergence de la vie.
Jean-Pierre Bibring donc évoque cette mission Rosetta et l'atterrissage sur la comète qui est prévu le 11 novembre prochain. Voici ma question, Magali et Olivier. Comment s'appelle l'atterrisseur qui aura l'honneur de se poser sur la comète ? Vous avez 30 secondes et je crois même qu'Olivier...
Je crois qu'Olivier a déjà répondu.
Voilà.
Vous avez dit ?
Philae.
Absolument.
C'est une bonne réponse.
Oui, Philae qui tire son nom de l'obélisque de Philae. Il a été découvert en 1815. Et avec la pierre de Rosette, qui a évidemment donné son nom à la mission Rosetta, ce sont les deux pièces du puzzle qui ont permis à Champollion de déchiffrer les hiéroglyphes. Donc nos Rosetta et Philae modernes à nous vont nous permettre de déchiffrer les comètes et la formation du système solaire, on l'espère en tout cas.
Vous suivez ça de près, Olivier ? Ça vous intéresse ?
Ah, tout à fait, j'adore ça. Oui. D'ailleurs, j'avais prévu que cette question soit posée parce que vous posez souvent des questions sur les atterrisseurs et autres.
C'est vrai.
Donc vous avez regardé, vous avez fait une révision et vous avez eu raison. Magali, si ça vous intéresse aussi, ce sera aux alentours du 11 novembre pour l'atterrissage donc, de Philae sur la comète. On va suivre ça évidemment sur France Inter et dans la Tête au Carré en particulier. C'est le moment de découvrir les questions de rapidité. Cette question évidemment en ordre croissant de difficulté et vous avez 1 minute 30 pour y répondre. Vous êtes prêts? Magali, Olivier ?
Oui,
tout à fait prêt.
Allez, on y va, c'est parti. Première question, quel grand neurologue autrichien est décédé il y a 75 ans aujourd'hui ? Un grand neurologue autrichien. Allez, le fondateur de la psychanalyse.
Freud ?
Sigmund Freud, bonne réponse d'Olivier. De combien de brins l'ADN est-il composé, s'il vous plaît ?
Deux
brins, bonne réponse Magali. Quelle molécule présente dans l'atmosphère absorbe la majeure partie des rayons ultraviolets du soleil ?
Non.
Non.
Ozone.
Ozone, bonne réponse Olivier. Comment s'appelle la sonde qui tourne actuellement autour de Saturne ? Alors, vous qui avez révisé Olivier, comment ça s'appelle ? Comment s'appelle-t-elle ?
Ça, je ne sais pas.
Sinon, on peut passer à la cinquième.
Allez, quelle sorte d'animal originaire de la mer des Caraïbes est biologiquement immortel ? Un animal dont on a parlé souvent, d'ailleurs, dans l'émission.
Magali, une idée ?
Non.
Qui embête les baigneurs, d'ailleurs, très souvent.
Ah, la méduse ?
La méduse. Je vous ai légèrement aidé, Magali, c'est une bonne réponse. Quelle est la nationalité de la première femme à avoir reçu la médaille Fields cette année ? C'est la première femme.
Iranienne.
Bravo Magali. Dernière question. Quel nom a-t-on donné aux fossiles considérés par certains paléoanthropologues comme l'une des premières espèces de lignée humaine ? C'est un Français qui a découvert d'ailleurs ce fossile. Non, mais c'est, je pourrais presque dire c'est l'autre, plus ancien encore. Allez, Toumaï. Olivier, bravo. Sur le fil. Et c'est une excellente réponse. Et je crois que nous avons répondu pratiquement à tout, sauf la quatrième question.
Sauf la quatrième question, il s'agissait de la sonde Cassini.
Voilà,
autour de Saturne.
Cassini qui est parti en 97.
Oui, et qui est arrivé en 2004 et qui depuis fait de la science.
Il faut faire le total des points, car là j'avoue que je n'ai pas tellement suivi à ce niveau-là, Florence.
Et c'est ex aequo sur cette manche, on a 15 points partout et donc ça fait 25 en tout pour Olivier, voilà, qui avait gagné la première manche.
Donc le total des points, 25,
et 25 pour Olivier et 15 pour Magali.
C'est le moment du mot mystère. Là aussi, vous connaissez le principe. On vous a donné un mot hors antenne, Olivier et Magali. On commence avec qui, Florence ? C'est vous qui choisissez tous les jours.
Oui, je choisis Magali.
Voilà. Alors Magali, vous avez l'honneur de devoir donner cette définition à Olivier et vous avez 45 secondes pour ça. On lance le chrono.
Alors, il s'agit d'un terme de géologie pour désigner un sédiment qui est plus fin que le sable. Ça ressemble un peu à de la boue. C'est un espèce de dépôt de terre avec des débris organiques.
Limon ?
Oui.
Impeccable.
Royal.
Champion, Olivier. Hein.
Oui, puis Magali a été super claire en plus.
C'est vrai, très bonne définition. Le limon, sol très riche, d'origine éolienne. Lagunaire ou fluviatile, généralement très,
très fertile.
Avec voilà, ces dépôts argileux meubles, c'est bien le limon. Et ça fait combien de points pour Olivier ?
Eh bien, 35 en tout.
Olivier, vous serez aussi brillant que Magali, j'en suis sûr, dans votre définition. 45 secondes, c'est parti.
Alors, c'est une substance chimique, ça devrait aider la vétérinaire, qui est émise par la plupart des animaux et qui agit, qui agit dans l'attraction sexuelle des animaux d'une même espèce, qui transmet des informations et qui donc joue un rôle dans l'attraction sexuelle des animaux et de certains végétaux.
Alors, Magali.
Qui agit en toute petite quantité et qui peut être détecté par phéromones.
Bravo. Voilà, j'allais vous parler des fourmis, par exemple, entre autres. Les phéromones qui vous rapportent également
10 points. Ce qui vous fait 25 points en tout.
Le total.
Et le total, du coup, ça fait 35 points pour Olivier et 25 points pour Magali. C'est donc Olivier qui remporte le jeu et le beau livre Science, année après année, des éditions Flammarion, qui sera d'ailleurs disponible en librairie à partir de demain.
Demain, mercredi. Voilà. Vous êtes très bien défendus tous les deux.
Oui,
bravo pour votre rapidité. Est-ce que vous jouez sur les précédents quiz sur l'antenne ?
Oui, j'avais un petit peu révisé. Effectivement,
vous aviez l'entraînement, Olivier.
Et vous faites des bons scores en général, Magali ?
Oui, c'est correct. Oui.
Bon, c'était pas mal du tout, en tout cas, aujourd'hui. On vous félicite et on vous remercie beaucoup d'y avoir participé. Et pour nos amis auditeurs qui souhaitent jouer à leur tour, il faut s'inscrire, c'est tout simple.
Oui, sur le site de l'émission, sur franceinter.fr.
Bonne journée, Magali, Olivier.
Merci à tous les deux.
À très bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Voilà, c'est le bon moment pour accueillir Fabrice Drouet, l'affaire sensible dans un instant. Quel sera le thème, Fabrice, aujourd'hui ?
L'affaire Lippe en 73, conflit social exemplaire qui donnera naissance plus tard au SCOP. Nous parlerons avec notre invité Benoît Hamon, ancien ministre de l'économie sociale et solidaire.
A tout à l'heure, Fabrice.